Bonjour bien-aimés. Nous bénissons Dieu qui nous donne cette opportunité de le louer, l'adorer et nous tenir dans sa présence. C'est un privilège, c'est une grâce et c'est à la fois une responsabilité. Prenez toujours l'occasion de nous rendre compte qui il est. Il y a des psaumes qu'il invite dans sa présence. On dit « Porte, élevez vos linteaux, car le roi de gloire va faire son entrée. » Qui est le roi de gloire, c'est l'Éternel, le Dieu grand et puissant. Celui qui a dit à tous les rois qu'il a suscité, « Non, je n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme, parce que je ne peux pas contenir dans une maison faite de main d'homme. » Mais sa gloire habite là. Il dit, « Tant que vous obéirez à mon alliance, ma gloire demeurera dans cette maison. » Mais le jour où vous faillez à cette alliance, même si les murs sont debout, je ne suis plus présent. Et nous voulons regarder depuis quelques dimanches ce livre de la Révélation, celui qui a été donné à l'apôtre Jean, à l'Apocalypse. Dans le chapitre premier de ce livre, il est dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves, à ses serviteurs, ce qui doit arriver bientôt. Il l'a signifié en envoyant son ange à son serviteur Jean, qui a témoigné de tout ce qu'il a vu, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. » Et au verset 3, il est dit, « Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de cette prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. » C'est un refrain que Jésus a eu très tôt quand il a commencé son ministère. Dans Luc chapitre 4, il a dit, « Car le royaume de Dieu s'est approché. » Il parlait de lui. Depuis que le Fils de l'homme est rentré sur la terre des vivants, le royaume de Dieu est plus proche qu'il y a plusieurs milliers d'années en arrière. Et donc ce livre est là pour nous donner la révélation, pas pour nous faire peur. Le mot apocalypse a donné tout de suite terreur apocalyptique, mais en réalité, il veut d'abord dire révélation, montrer à l'Église ce qui est caché. Montrer à l'Église ce qui est caché. Et c'est Jean, l'apôtre Jean, qui a eu ce privilège de le faire. Et le texte nous dit que nous sommes heureux si nous lisons ce texte à haute voix, bien plus si nous l'entendons et que nous gardons ce qui est écrit. Et nous avons essayé de regarder, pour les quelques dimanches devant nous, les 6 premiers chapitres. Nous avons commencé à regarder la lettre qu'il a écrite aux 7 églises, et j'ai expliqué, et vous pouvez le revoir sur les vidéos, que les 7 églises sont les 7 églises qui ont existé effectivement au premier siècle, mais sont symboliquement toutes les églises de toutes les époques, de tous les âges, depuis l'avènement de Jésus-Christ. Et ce qu'il dit là, j'en ai un peu parlé, nous concerne, et j'ai donné quelques éléments qui nous concernent et qui nous touchent. Et nous avons vu par la suite le chapitre 6, que nous avons lu, que nous avons commenté, avec ce qu'on appelle les sceaux. Dans le chapitre 4 et chapitre 5, on a ce qu'on appelle la cour céleste. Pour une fois, Jésus nous ouvre les yeux sur cette cour céleste. Il ne l'avait jamais fait pendant son ministère terrestre. Il avait fait des évocations comme ça. Il dit, car le Fils de l'homme, comme il est descendu, il montra. Donc, il disait ça. Et là, il donne cette révélation. Comment le royaume, le trône de Dieu, symboliquement, en image encore une fois de plus, commençait. Donc, le chapitre 4 et le chapitre 5 nous montrent la splendeur, la grandeur, la magnificence de ce trône de Dieu. Et on dit, au milieu de ce trône se tient l'agneau immolé, Jésus. Non seulement il est l'agneau immolé, mais il est le lion de la tribu de Juda. Donc il est le vainqueur à la fois. Et Jean a cette révélation où il y a un livre qui va décrire, qui va dire les choses à venir, mais il n'y a personne qui est capable d'ouvrir les sceaux. Les sceaux, je l'ai expliqué, c'est la façon dont on fermait les courriers dans l'ancien temps, comme les lettres commandées. Si une lettre commandée vient au nom de Serge Oulahi, il n'y a que Serge Oulahi qui va le recevoir parce que le postier ne va le donner que si Serge Oulahi est là. S'il n'est pas là, on donne un avis de passage. Parce que le seul qui doit l'ouvrir, c'est Serge Oulahi. C'est ça les sceaux. Et le texte dit qu'au ciel, il n'y avait personne qui était capable. Les gens disent, j'ai commencé à pleurer. Comment ça? On ne va pas savoir ce qui va nous arriver. Et puis dit un des vieillards, dit, non, t'inquiète pas, l'agneau, il est le seul digne, le seul capable d'ouvrir le livre. Et l'agneau, c'est Jésus. Parce que tout lui a été remis par son Père selon l'Épître aux Philippiens. Ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre, ce qui est sous la terre, tout est soumis à Christ. Car c'est pour lui, c'est par lui et c'est en lui que tout a été créé. Il est celui qui siège et qui trône sur tout. Et il a été trouvé digne à cause de quoi? Parce qu'il a donné sa vie pour la création. Parce que le Fils de l'homme est venu comme l'un d'entre nous, bien pire, il est venu pour donner sa vie en rançon. Pour que non seulement l'être humain créé à l'image de Dieu soit sauvé, mais toute la création. Hein, l'Épître Romain dit que même la création soupire après l'avènement du Fils de Dieu. C'est pour ça que dans son ministère terrestre, il a pu être celui seul qui pouvait avoir autorité sur la nature, n'est-ce pas? Ses disciples étaient étonnés. Mais quel est celui qui a même autorité sur la nature? Il était capable de dompter une mer agitée. Et quand il est mort à la croix, les événements cosmiques qui se sont produits, l'officier romain qui était au pied de la croix a dit, certainement, il était vraiment le Fils de Dieu. Ce qu'on dit, le ciel s'est obscurci, la terre a tremblé, le rideau du temple s'est déchiré en deux et quelques croyants de l'Ancien Testament sont sortis de leur tombe. Ils sont rentrés à Jérusalem, on les a vus, ils sont ressuscités. Waouh! Et c'est lui qui était seul digne d'ouvrir les sceaux. Et il ouvre les sceaux. Et on en a parlé aussi. Premier sceau, le cavalier, le cheval blanc, l'antichrist, le faux, le destructeur, les forces du mal, avec cette façon ambiguë de dire le vrai et le faux à la fois. L'antichrist, c'est ça. Hein? L'antichrist, il ne faut pas chercher loin. C'est celui qui fait comme Christ, mais en fait qui n'est pas le Christ. Celui qui apporte des paroles qui peuvent être comme celles de Christ, mais ce n'est pas vraiment celles de Christ. Et on sait que c'est la force de l'ennemi de faire cela, puisqu'on le connaît, puisque depuis le premier livre, c'est ce qu'il a fait avec la femme et l'être humain, avec Ève et Adam. L'Éternel a-t-il réellement dit? Deuxième sceau, le cheval rouge, les guerres. Et dans cette introduction, ce culte, Éric nous a rendu sensibles. Les temps sont mauvais. Il ne faut pas croire. Les temps sont vraiment mauvais. N'empêche que Dieu continue d'être le roi de gloire. C'est pour ça que nous sommes en vie. C'est pour ça que nous pouvons continuer. Vous savez, pendant la Troisième Guerre mondiale, non, elle n'est pas encore arrivée, n'est-ce pas? Elle n'est pas encore arrivée. Non? Bon. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, certains aspects du monde, certaines parties du monde n'étaient pas touchées. Au début. Et puis après, tout s'est embrasé. Tout s'est embrasé. Même ceux qui n'avaient pas sur leur territoire les combats ont été mobilisés pour venir combattre. Il n'y a pas une nation qui n'a pas été touchée par la Deuxième Guerre mondiale. Toutes les nations ont perdu quelqu'un. Parce que même si vous étiez loin, vous aviez été mobilisés pour y aller. Et dans le chapitre 8, nous reviendrons en détail sur ce que ça veut dire. Mais la guerre est un fléau lâché par Dieu. On dit, oula, Dieu il fait ça. Le cœur de l'homme est mauvais et Dieu veut laisser le monde voir qu'il est mauvais en fait. Et les guerres nous montrent la noirceur, l'opacité de nos motivations. Parce qu'au nom de motivation juste, on est capable de tuer l'autre en disant, j'ai raison sur lui, donc j'ai raison de lui, donc je peux le tuer. Je peux non seulement le tuer, mais exterminer tout son peuple parce que son peuple a tort et mon peuple a raison. Tant pis s'il y a des innocents. C'est ça la guerre. Que ce soit votre président qui a déclaré la guerre, tant pis pour vous parce que c'est lui qui a déclaré, mais vous, vous priez ce qu'on appelle les pots cassés. C'est cruel, c'est injuste. Et Dieu laisse les hommes voir l'injustice dans la guerre. Deuxième fléau. Troisième fléau, le cavalier noir, c'est la famine. Et ça montre combien de fois notre monde est injuste, alors que certains mangent en jetant des nourritures à la poubelle, d'autres meurent de faim. C'est ça notre monde, en fait. C'est ça notre monde. La famine. dans des endroits reculés, touchés par des fléaux géoclimatiques. En 2 semaines, les médias mettent l'accent dessus et puis après on passe à autre chose. On passe à autre chose. Et les gens se débrouillent tout seuls dans leur misère. Heureusement encore qu'il y a des hommes de bonne volonté, qu'il y a des ONG de bonne volonté qui vont se lever contre vents et marées, qui vont mobiliser des fonds et qui vont aller aider pendant des décennies et des années ce qui se passe dans ces endroits-là. Dieu libère ce fléau aussi pour que nous voyons, des fois en tant que chrétiens, la grâce que nous avons d'avoir ne serait-ce qu'un repas par jour. Et le Covid nous a montré bien que même quand tu as l'argent, tu peux avoir faim parce que tu n'as pas la possibilité d'acheter. Et c'est ce qu'il dit dans le Cavalier Noir, il dit une mesure de blé pour deux mesures de farine. Ça veut dire même si tu as l'argent, tu ne pourras pas acheter la quantité dont tu as besoin avec l'argent que tu as. Et le Covid nous l'a bien montré puisque c'était rationné. Donc, le Covid nous montre des choses que Dieu a déjà dites, que les anciens ont vécues, que nous vivons et que nous avons vécu il y a 4 ans. 4 ans, c'est déjà passé. C'est comme s'il y a 10 ans qu'on a vécu le Covid. Il n'y a que 4 ans, à peine 5 ans que le Covid est passé. Mais on a bien vite oublié les leçons de ce Covid. Notre monde a oublié les leçons. C'est un mauvais cauchemar, on l'a rangé au placard. Alors que Dieu parle au travers de tout ça. Et c'est ce que Jésus dit dans le chapitre 2, chapitre 3 de cet Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quatrième fléau, le cavalier, le cheval verdâtre. C'est la mort. C'est la mort. La mort est une terreur. Et nous l'avons vécu pendant le Covid. Ce décompte macabre chaque jour à la télé. Chaque jour à la télé, on nous disait le nombre de gens. Ah là là. C'est ça le fléau de la mort, en fait. C'est chaque jour. Alors que la mort n'est pas quelque chose de quotidien. En tout cas, chaque jour, personne ne meurt chaque jour dans nos familles. Même s'il y a des périodes comme ça où l'année peut être touchée par plusieurs décès dans une famille. Mais chaque jour, comme nous l'avons vécu, ce fléau a été déchaîné. Ce n'est pas nouveau. Hein. N'oubliez pas qu'au XVIe siècle, il y a ce qu'on appelait la peste noire. Et la peste noire a décimé l'Europe. XVIe siècle. Et c'est de ce XVIe siècle noir qu'est née la réforme chrétienne, avec Luther et le protestantisme. Cinquième fléau, ce n'est pas vraiment un fléau, c'est un sceau. Il dit, je vois sur l'autel de Dieu, cet autel qu'il a démontré, l'âme des martyrs, ceux qui ont été tués à cause de leur témoignage de la parole de Dieu, ceux qui ne se sont pas laissés corrompre et qui sont restés fidèles à la parole, mais ils ont payé de leur vie. Dans certaines parties du monde aujourd'hui, être chrétien, nous avons le privilège, et Eric l'a dit, voilà, de nous lever le matin, de venir au culte, c'est un droit, c'est un privilège. Et comme c'est un privilège là, ne faisons pas de ça une option. C'est-à-dire, l'option c'est, je peux venir comme je peux ne pas venir. Dites-vous toujours que certains de vos frères dans le monde entier, ils n'ont pas cette option. Parce qu'ils ne peuvent même pas aller quelque part pour se rassembler avec d'autres. S'ils y vont, c'est au péril de leur vie. Plus ont été arrêtés, mis en prison, parfois tués. Et il dit, je vis l'âme de ces martyrs qui criaient, quand est-ce que tu nous rendras justice? Et Dieu dit, pas maintenant. Il leur a donné des robes blanches. Il dit, attendez. Parce que malheureusement, comme l'homme est mauvais, son péché continue de s'accroître, ils vont toujours s'en prendre à mes enfants. Ils vont toujours encore tuer d'autres chrétiens. Et j'attends qu'ils mettent un comble eux-mêmes à leur péché pour que ma justice puisse agir. C'est pour ça qu'on dit, mais Dieu, il tarde. Dieu, il tarde pas. Il a son agenda. On dit qu'à ce que Dieu veut, ce n'est pas que l'être humain périsse, c'est qu'il soit sauvé. Donc il donne tellement. Souvent je m'assois et je me dis pourquoi dans nos sociétés occidentales modernes, avec le progrès de la science, pourquoi les gens meurent vieux. Je pense que c'est parce que Dieu veut qu'en une société athée comme celle-ci, les gens aient autant de chances de lui répondre oui. Jusqu'à 88 ans, 92 ans, pour qu'ils aient l'opportunité encore de lui dire oui. Mais c'est terrifiant quand même. Pour avoir accompagné, pour être des fois dans des hôpitaux en tant que pasteur, C'est difficile. Tu vois des seniors qui n'ont rien à faire avec Dieu et qui sont prêts de partir. Parce que la société a travaillé notre conscience de sorte qu'on s'en fout, en fait. On dit qu'il n'y a rien après la mort. C'est une grosse, grosse, grosse illusion. Et je me dis que tout ça, c'est pour que Dieu donne autant de chance à un monde athée de pouvoir quand même avoir assez de marge pour arriver à répondre oui un jour, quelque part. Un jour, quelque part. Et le sixième sceau, quand il ouvre ce sceau-là, c'est le jugement dernier. C'est terrible ce que ce sceau nous explique. Et j'en ai parlé dimanche dernier. C'est un cataclysme cosmique, c'est-à-dire un renversement de tout ce que nous pouvons connaître comme alignement de nos planètes et tout ça. Le soleil devient noir. On dit que c'est la mort d'un soleil. En fait, les scientifiques expliquent qu'on appelle ça la mort d'un système solaire. Il semble, hein, c'est théorique, que c'est déjà arrivé. C'est pour cela que ça, un système solaire meurt. Quand le soleil d'un système solaire meurt, en fait, c'est tout le système solaire qui est en branle. Et il y a plein d'explications des grands scientifiques qui expliquent tout ça. Il semble que c'est ça que Jésus dit ici. Le soleil deviendra noir comme une toile de sac, la lune tout entière devient rouge comme du sang, les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre. Et il semble, en tout cas pour ceux qui y croient, que c'est comme ça qu'on a perdu les dinosaures. Qu'il y a des astéroïdes qui, venant du ciel, se sont abattus à un moment donné de notre histoire sur la terre et qui ont détruit toute forme de vie, notamment cette vie-là. C'est des hypothèses. Mais en tout cas, le texte dit que les étoiles vont tomber sur la terre, comme font les fruits d'un figuier secoué à un gros coup de vent. Le ciel se retirera comme un parchemin qu'on enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre, les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves, tous les hommes libres, allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes, ils criaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. » Et le verset 17 dit, « Car le grand jour de leur colère est arrivé et qui peut subsister ?» Qui peut subsister ? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, n'oubliez pas que l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un feu dévorant. Il est gentil, il est gracieux, il est doux, mais il est l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, il est le Dieu juste, qui ne prend pas l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent, parce que sa justice est juste, mais qui est lent à la colère, mais riche en bonté. Et qui laisse l'opportunité 10 600, enfin, tellement de fois. Vas-y, s'il te plaît. Et quand je parlais de ça la dernière fois, donc là, vous avez ce qu'on appelle la chronologie de la révélation que l'apôtre Jean a eue, les 7 sceaux. Et là, après le 6e sceau, il va faire une parenthèse dont on va parler maintenant au chapitre 7 pour expliquer quelque chose de fondamental. Et puis ensuite, il va revenir pour expliquer le 7e sceau. Et du 7e sceau vont partir ce qu'on appelle les 7 trompettes et les 7 coupes. Et on va regarder ça au cours des différentes publications qui sont devant nous au cours de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a lu dans le chapitre 1 qui dit « Heureux celui qui lit à haute voix cette prophétie et tous ceux qui l'entendent ». Donc il a laissé ça pour nous, pour que nous comprenions. Ce qui est intéressant dans le livre de l'Apocalypse, c'est qu'il y a perpétuellement un aller-retour entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament dans le livre d'Apocalypse. C'est-à-dire, quand vous étudiez l'Apocalypse, vous êtes obligé de retourner dans l'Ancien Testament. Parce que beaucoup d'images nous ramènent à l'Ancien Testament, aux prophètes, aux textes de la loi,
Mais en même temps, beaucoup d'images nous ramènent à Jésus-Christ. Donc, du coup, on revient aussi dans le Nouveau Testament. Donc, c'est intéressant parce que ça nous donne un aperçu général de la révélation de Dieu. Lorsque je me suis arrêté sur ce texte le dimanche dernier, je vous ai demandé une référence biblique que vous n'avez pas pu me donner, que moi-même j'étais un peu embêté de vous donner aussi. Bon, la semaine est passée, personne ne m'a appelé pour me dire, pasteur, le texte que tu demandais, on l'a trouvé. Je me suis dit, mais pourquoi les frères n'ont pas appelé? J'ai vu qu'il n'y a que 48 personnes qui sont allées regarder la vidéo. J'ai dit, je comprends. Donc, ils ne sont pas repartis. Mais bon, chacun a gardé certainement l'enseignement qui était pour lui ce jour-là. Mais j'étais en train de parler de la fidélité de Josué. Et j'ai dit, Josué a écrit dans Deutéronome chapitre 24 ou Deutéronome chapitre 27. Ah, c'était Josué. Mais j'ai dit Deutéronome. Et personne dit, pasteur, quand même. Hein? Voilà, il faut oser. Faut oser parce que nous sommes des Bériens. Hein? Il y a deux personnes qui l'ont dit, mais qui n'ont pas osé approcher le pasteur pour dire, pasteur, ça, c'était pas la bonne référence. Vous savez, le pasteur, c'est un frère. Et je vous ai toujours dit, à cause de la proximité qu'on a dans notre église, parce que c'est une église famille, la hiérarchie n'existe pas. Et dans ce genre de situation, il ne faut pas laisser cette hiérarchie prendre le pas, parce qu'elle n'a pas le droit d'être là, parce que ce qui est important, c'est la parole de Dieu et pas les personnes. Voilà. Et j'ai rappelé à chaque fois ici que les premiers cultes ici m'ont encouragé, parce que dès ma première prédication, il y a un frère qui m'a vu, qui m'a dit, ah, la référence que tu avais donnée, c'était pas ça. Donc, n'hésitez pas. Donc, c'est Josué chapitre 24. Parce que, évidemment, on ne peut pas parler de Josué en Deutéronome, puisque son ministère n'a pas commencé encore en Deutéronome. Puisqu'en Deutéronome, même jusqu'au chapitre 27, c'est Moïse qui finit son ministère. On évoque à peine le successeur de Moïse dans Deutéronome chapitre 27. Donc, Josué ne peut pas faire son bilan au chapitre 27 de Deutéronome alors que son ministère n'a pas encore commencé. Donc, chronologiquement, même cette référence n'était pas bonne. Et puis, je veux demander pardon à l'Église, demander pardon à mon Dieu pour n'avoir pas donné la bonne référence. La bonne référence, c'est Josué chapitre 24, un chapitre incroyable où on raconte à partir du chapitre, verset 1 de ce chapitre 24, tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Et à partir du verset 14, Josué prend la parole. Il dit, maintenant, vous allez devoir choisir qui vous voulez servir. Parce que vos pères n'ont pas été toujours fidèles. Ils ont servi des idoles de l'autre côté. Maintenant, Dieu vous a mis en sécurité sur cette terre promise. Vous devez choisir de servir que l'Éternel. Car l'Éternel est un Dieu qui est bon, mais qui n'aime pas de rival. Parce qu'en réalité, il n'a pas de rival. Deutéronome 6, verset 4 dit, car l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, l'Éternel est un. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre Dieu, en fait. Donc, tous ceux qui se disent Dieu l'énervent, en fait, parce qu'ils ne sont pas des dieux. Et dans un psaume, il dit, mais franchement, quelqu'un qui va dans une forêt, même si c'est un bois, même si cette qualité de bois est la meilleure des qualités, qui la coupe et qui vient et qui taille une idole avec ce bois et qui met devant lui, qui dit, ah, toi, le bois, là, c'est toi, mon idole, c'est toi, mon Dieu, il dit, il est stupide, en fait. Parce que ce bout de bois, en fait, c'est déjà une création. Et toi, tu as été intelligent, tu as été capable d'aller couper ce bois, de le tailler, de le polir, de le sculpter, et tu dis, c'est ton Dieu. J'ai dit, vous voyez, c'est ça l'insensé. Et c'est ça qui devient une idole. Mais ça, c'était dans le passé. Aujourd'hui, on a trop d'idoles qui ne sont pas forcément des bois taillés. L'idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Dans ma vie, tout ce que je mets au premier plan, plus que Dieu. C'est ça une idole. Donc des fois, on demande aux chrétiens de bien s'examiner si Dieu n'a pas la seconde place par rapport à autre chose. Bref, Josué dit, quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et le texte finit par dire que Josué a été fidèle jusqu'au jour où Dieu l'a rappelé. Alléluia. Il a été fidèle. Donc, j'avais voulu quand même corriger cette grave erreur devant vous pour redonner la bonne référence de ce texte-là. Et ce chapitre 6 finit en disant, qui peut subsister à ce grand jour de la colère de Dieu? Et puis là, il y a une parenthèse que Jean reçoit au chapitre 7, et nous allons voir cette parenthèse que Jean reçoit avant de continuer sur le septième sceau, Parce que c'est des cycles de sept. Hein, vous avez vu, il y a sept sauts, il y a sept trompettes, il y a sept coupes. Et avant de continuer sur le septième saut, il fait une parenthèse, chapitre 7 de l'Apocalypse. Et on va lire le texte. Vas-y, s'il te plaît. Le Seigneur sait qui sont les siens et il les gardera en sécurité. Et c'est un verset qui va être un verset marqueur, mais lisons tout le texte. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il criait aux quatre anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des esclaves, des serviteurs de notre Dieu. Verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de ce sceau, 144 000, de toutes les tribus des Israélites. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Verset 9. Après cela, j'ai vu une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des branches de palmier à la main. Et ils criaient, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants. Ils tombaient face contre terre devant le trône, prosternés devant Dieu, en disant, Amen. La bénédiction, la gloire, la sagesse, l'onction de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu, à tout jamais. Amen. Alors l'un des anciens me demanda, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où viennent-ils? D'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils lui rendent un culte jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui est assis sur le trône les abritera dans sa demeure. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Alors, à la question qui a été posée au verset 17 du chapitre 6, « Et qui peut subsister ?» On voit que Dieu encore a pris l'initiative de garder quelques-uns. Et ça fait écho à Jean chapitre 1. Car à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Et ce n'est ni de la volonté d'un homme, encore moins de la chair, mais de la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui dit, il donne une parole à un ange, et l'ange dit à tous les autres anges, arrêtez. On va reprendre ce jugement, mais pour l'instant, on va mettre en sécurité tous les serviteurs de Dieu. Tous les enfants de Dieu, on va les mettre en sécurité. Et ça nous rappelle, la question du sceau nous rappelle à chaque fois l'œuvre de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et l'action du Saint-Esprit. Car la Bible dit que l'Esprit de Dieu est donné aux croyants comme les arts de notre salut, comme le sceau que Dieu estampille la vie de ceux qui lui appartiennent. Car personne ne peut dire Abba Père s'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. As-tu l'Esprit de Dieu, mon frère? As-tu l'Esprit de Dieu, ma soeur? Comment je peux le savoir? As-tu fait la paix avec Dieu, mon frère? As-tu fait la paix avec Dieu, ma soeur? Comment je peux le savoir? Je peux le savoir si j'ai fait cette démarche. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais, Romains 3, 23, car tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et Éphésiens dit que Dieu a fait une grâce. Car le salut est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu que nous saisissons par la foi. Mais pour faire cela, il y a ce qu'on appelle la prière du repentant. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis une pécheresse et que de moi-même, selon Romains 3, 23, je ne peux pas me sauver moi-même.
puisque je suis compris dans Romains 3, 23, je suis aussi dans le tous sont privés de la gloire de Dieu. Et le texte dit, il n'y en a même pas un seul. Donc, je ne peux pas être l'exception, puisque c'est à dire, il n'y a pas d'exception. Tous les humains, sans exception, sont privés de la gloire de Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Et l'Épître Romain dit, car celui qui reconnaît dans son cœur qu'il est pécheur, doit le confesser de sa bouche. Donc, je dois accepter ouvertement Jésus. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Et désormais, je désire, je souhaite, je soupire marcher après ta parole. Car ta parole est la vérité. Si tu as fait ça, oui. Tu es rentré dans ces privilégiés d'être enfant de Dieu. N'est-ce pas? Il dit, quand on a été capable de faire ça avec sincérité, ça veut dire déjà que l'Esprit de Dieu agit en nous. Car si l'Esprit ne fait pas ça, on ne peut même pas confesser Christ. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on annonce souvent l'évangile à des gens, à nos familles, à des gens proches, à certains membres de nos familles. Puis on est triste, parce que jusque-là, ils n'ont pas accepté. Ils nous voient pourtant, mais ça ne change rien. Parce que pour l'instant, leur cœur est fermé à l'Esprit de Dieu. Le jour où ils vont capituler à l'Esprit de Dieu, ils seront dans les privilégiés de recevoir le Fils de Dieu. Et nous devons continuer de prier pour eux, de persévérer dans la prière. Pour que Dieu qui toque à la porte de leur cœur, qui puisse ouvrir cette porte et laisser l'Esprit de Dieu rentrer. Et la deuxième chose, comment tu sais que tu as l'Esprit de Dieu? C'est l'Épître aux Galates qui nous dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car les œuvres de la chair sont évidentes. Immoralité, impureté, discorde, jalousie, querelle, division, orgie, beuverie, perversité. Et ces œuvres-là, elles sont là, elles sont évidentes, on les voit. Elles ne sont pas cachées. Il dit aux enfants de Galates, aux chrétiens de Galates, si vous marchez dans ces choses-là, il y a un problème. Si ces choses sont en vous et que ça continue d'être manifeste dans votre vie, il y a un problème. Ça veut dire que vous êtes en train de marcher, non pas par l'esprit, mais par la chair. Il dit, car les œuvres, le fruit de l'esprit, on le connaît aussi. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bienveillance, c'est la longanimité, c'est la tempérance, c'est la persévérance. Car la loi n'est pas contre ces choses-là. Et les choses semblables. Si vous êtes nés par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Quand on voit tous les sauts avec tout ce que nous pouvons vivre comme danger dans ce monde et nous voyons que malgré tout Dieu nous protège et nous fait grâce, qu'est-ce que ça nous coûte de vivre selon la volonté de Dieu? On a un privilège, on a une grâce. Il y a quelqu'un qui a dit, en fait, le bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui est évident, là, tellement c'est évident, on est dedans, mais le jour, on ne l'a plus, c'est comme la santé. On se lève le matin, on est bien content, on voit le travail et tout, puis le jour, tu es malade, tu dis, oula, j'ai besoin de la santé. Hein. La santé, c'est quand même quelque chose de bien. Et là, quand tu es malade, tu dis, oula, ce corps-là, franchement, quand il est touché, c'est pas agréable du tout, on ne peut rien faire, tu n'es pas bien, et puis tu as hâte que ta santé revienne. C'est ça. Ça, quelqu'un dit, le bonheur, on l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Parce que quand on est dedans, on ne réalise pas. Nous sommes des enfants de grâce. Le don de Dieu nous a été donné. Réalisons que nous sommes des privilégiés. Et si on est des privilégiés, on doit garder ça avec jalousie, avec... Ah, que Dieu nous aide. Donc, il dit, voilà ceux qui sont sauvés. Les 144 000. Et on a expliqué. 144 000, c'est un chiffre symbolique, hein. Faut pas focaliser dessus, sinon vous allez perdre du temps, comme l'Église a perdu du temps depuis 2000 ans. Il y a trop de théologiens qui ont perdu du temps dessus, et ça fait des bagarres dans l'Église, ça a divisé des églises, ça a divisé des enfants de Dieu, pour rien, c'est pas encore arrivé. On a déjà fait des palabres dessus. C'est comme quelqu'un qui a dit à sa femme, on va acheter une voiture, puis sa femme a commencé à faire des plans avec la voiture. Il dit, arrête, tu vas gâter la voiture. Elle dit, mais tu l'as même pas encore achetée. Non, c'est même pas encore arrivé. Mais on est déjà capable de nous diviser dessus.
On se prend le chou sur ce chiffre-là. Et on est sérieux quand chacun défend son interprétation. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La leçon la plus simple, c'est de dire que c'est un symbole. Et quand ceux qui sont un peu plus doués bibliquement, parce que Dieu dit dans Éphésiens 4, il nous a donné des docteurs, c'est-à-dire des gens qu'il a nantis d'un don pour nous expliquer les textes bibliques, ces docteurs-là disent en fait, c'est simple. Il y a 2 x 12 qui sont les deux chiffres du peuple de Dieu. L'Ancien Testament, c'est les 12 tribus d'Israël, et le Nouveau Testament, c'est les 12 apôtres qui représentent l'Église. Donc, comprenez, 12 que vous multipliez par 12, ça fait 144. Ah, c'est ça. On dit oui, c'est ça. Parce que multiplier, c'est toujours exponentiel. C'est-à-dire, c'est toujours plus. Hein? Si je fais 12 plus 12, ça fait que 24. Ce n'est pas beaucoup. Mais si je multiplie, ça fait 144 000. 144, c'est déjà un multiple supérieur. Ensuite, le 1000, on dit, c'est le chiffre de la plénitude. Donc, prenez 144 000 qu'on multiplie encore par 1000, ça fait 144 000. Non seulement c'est les deux alliances, donc l'ancienne et la nouvelle ensemble, en plus, pleinement, selon l'œuvre de Jésus, parce qu'il a tout accompli. C'est ça qui fait 144 000. Donc, c'est l'ensemble de tous les croyants de l'Ancien et du Nouveau Testament qui seront sauvés avant l'avènement du Fils de Dieu. Et ensuite, il dit, il n'y a pas que ça. Ça, c'est un chiffre symbolique, d'accord. Mais il y a aussi tout ce qu'on ne peut pas compter. Il dit, j'ai vu des milliards de... Le texte original dit des milliards et des milliards. Donc, le mot milliard, en fait, c'est un chiffre, c'est un nombre qu'on ne peut pas calculer, en fait. C'est-à-dire, on a dépassé les milliards, mais on ne sait plus comment calculer. Après, le plus haut dans notre comptabilité, à nous, c'est milliards. Donc, quand tu as des milliards de 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 milliards, ça devient des milliards. Parce que tu n'arrives plus à calculer, en fait. Tu n'arrives plus à calculer. Il dit, j'ai vu des milliards et des milliards de tout. Ah, c'est trop beau le texte. Il dit, j'ai vu de tout qui? De toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Ça veut dire de toutes les civilisations et de toutes les époques jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Donc, c'est les croyants de tous les temps et de toutes les ethnies de la terre et de tous les peuples de la terre. Alléluia. Car la Bible dit, car Jean 3, 16, c'est pas ça? Car Dieu a tant aimé? C'est bien Jean 3, 16? Bon, cette fois-ci, on est d'accord. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, quiconque. C'est le quiconque là qui est dans ce verset. Quiconque. Quiconque. Quel que soit l'être humain, où qu'il soit sur le globe terrestre, s'il accepte Jésus, il fait partie de ceux qui sont marqués par le sceau de l'agneau. Es-tu marqué par le sceau de l'agneau? Si oui, c'est une grâce que Dieu te fait. Garde cette grâce avec jalousie, avec persévérance. Parce que dans l'Ancien Testament, on a vu ça. Ézéchiel chapitre 9, où Dieu parlait. Dieu a tellement averti le peuple d'Israël, ils n'ont pas compris. Et puis, pareil. Comme dans l'Apocalypse, il y a un ange qui vient et qui dit Dieu va punir son peuple, mais il va mettre à part tous ceux qui se sont gardés purs dans cette affaire. Parce que Dieu est juste. Il ne prend pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable. Il dit l'ange va marquer ceux, c'est Ézéchiel qui dit, hein, chapitre 9, l'ange va marquer ceux qui se sont gardés purs pour Dieu. Ça nous rappelle aussi la sortie de l'Égypte. Combien de fois Dieu a voulu sauver et son peuple et les Égyptiens. Mais leur chef, le Pharaon, il était obtus, il était coincé de la tête. Et comme il se prenait pour Dieu, puisque Pharaon c'est le roi soleil, c'est le dieu soleil. Donc dans sa mentalité, dans sa culture, il n'y a pas d'autre dieu que lui. Et Dieu lui a montré qu'il n'est pas un dieu. À 9 reprises, Dieu lui a dit « Capitule, car il n'y a qu'un seul dieu, c'est moi ». Il n'a pas voulu capituler jusqu'à ce que Dieu touche maintenant des humains. Les premiers-nés des hommes et des bêtes de toute l'Égypte, à commencer par son premier-né à lui. Et c'est là qu'il a capitulé. Parce que le peuple était fâché. Son peuple était fâché. Son peuple dit, mais tu nous as mis dans une détresse pas possible. Parce que tu t'es obstiné devant ce Dieu de ces gens-là. Laisse-les partir. Là, nos premiers-nés sont tous morts maintenant, laisse-les partir. On dit que ce soir-là, l'ange de la mort est descendu, mais Dieu a dit aux Israélites, c'est là que vient la pécha.
tuer un agneau. Le sang de l'agneau, mettez-le sur le linteau des portes, pour que quand l'ange de l'extermination va passer, il outrepasse, il saute votre maison quand il verra le sang sur vos linteaux. C'est de là que vient la pécha, passer outre, ceux qui ont été sauvés de la destruction. Et là, Dieu avait marqué son peuple, ceux qui lui sont restés fidèles. Il ne faut pas oublier que son peuple a souffert 4 siècles. Le texte dit, Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis venu maintenant pour les délivrer. Ça a duré 4 siècles. Ça a duré 4 siècles. Quand on a le privilège, bien aimé, on est 7 milliards d'habitants sur la planète Terre. Et nous sommes quelques privilégiés, pas par nos mérites, mais par la grâce de Dieu. Que fais-tu de cette grâce-là? Vas-y, Eric, s'il te plaît. Ce psaume est un psaume fort qui peut clôturer à peu près le chapitre 7 d'Apocalypse, le psaume 100, le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. Se confier en Dieu, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire, j'attends de lui qu'il fasse ce qui est là-haut, mais il attend de moi que je lui sois obéissant. On dit car Christ a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et à cause de son obéissance jusqu'à la mort de la croix, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que l'obéissance à Dieu est là, non. Ça ne dépend pas des temps et des circonstances. C'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit, pour que, quels que soient les temps et les circonstances, nous regardons que dit la parole et on obéit à la parole. C'est de ça que Dieu parle, c'est de ça dont il a besoin pour parler au monde. Et comme pour ces temps, il ne va pas venir pour l'instant, mais qu'il est là, représenté à tous ceux à qui il a fait le privilège de devenir enfant de Dieu, à qui il a dit dans Matthieu chapitre 5, vous êtes le sel de la et la lumière. D'ici un sel, si le sel n'a plus de saveur, qui de vous est assez insensé pour prendre un sel sans saveur pour le mettre dans la sauce en disant ça va donner de la saveur? Il dit ça n'a pas de sens. Bon, nous on n'a pas ce problème puisque le sel actuellement qu'on a, il ne perd pas sa salinité. Mais le sel de l'époque perdait sa salinité. Donc il y a des moments où il n'est plus sec. Il dit quand c'est comme ça là, les moments là, il faut jeter, il n'y a plus rien à faire avec. Bon, il y a d'autres usages, mais pas dans ça. Il dit, bon, si nous qui sommes des enfants de Dieu, si cette saveur d'être enfant de Dieu, à cause des épreuves de la vie, à cause des difficultés relationnelles, à cause de tout ce que nous pouvons rencontrer, nous perdons cette saveur-là, qui va faire ça dans le monde? Qui va faire ça? Qui va faire ça? C'est pour ça que ces tests sont importants pour nous. Qui va le faire? Il dit, si la nuit tombe et qu'on n'a pas de lumière... Dans toutes les civilisations, on a toujours essayé d'avoir un peu de lumière pour éclairer les nuits. Ça a commencé par du feu, de bois, ensuite par des lampes torches avec des enduits spéciaux. Aujourd'hui, nous, on a l'électricité. Quand il fait noir, même que le courant est coupé, tu entends des bruits. En tout cas, dans certains pays, quand le courant, tu entends un bruit dans la ville. Wow! Et tout le monde est... Et on recherche à allumer la lumière à tout prix, parce que tout est branché sur ça. Et on a besoin de cette lumière-là. Bon, il dit, si vous, dont le monde a besoin, vous n'êtes plus lumière, on va faire quoi? On va faire quoi? Quelqu'un dit, il ne s'agit pas d'être lampadaire qu'on met sur le terrain de football. Vous savez, chacun lumière là où il est. Il y a un missionnaire, parce qu'il a dit, quand j'allume une bougie, là, même quand le courant est coupé, là, quand j'allume la bougie, là, ça donne la lumière de bougie, mais ça m'éclaire un peu. Donc il dit, si ta lumière, là, c'est comme bougie, là, soit bougie, mais soit le bien. C'est une invitation à nous, les croyants, à vivre ce que nous sommes. Si nous ne le vivons pas, Dieu ne descendra pas pour le faire, et nous ne rendons pas gloire à Dieu.
C'est ça, ça veut dire. On aime beaucoup chanter, on aime beaucoup dire dans nos prières, Seigneur, je vais te rendre gloire. Mais c'est aussi simple que ça. Hein? Rendre gloire, là, c'est mon témoignage de vie. C'est ça qui rend gloire à Dieu. Il dit, car vous êtes la lettre, vous êtes une lettre ouverte de Christ. Vous êtes une lettre ouverte de Christ. Et le nom chrétien qu'on porte là, ça vient de là. C'est-à-dire, les gens ont vu des gens au premier siècle, ils disent, ceux-là, ça nous rappelle quelqu'un. Ils disent, oh, leur comportement, ça nous rappelle le Christ. Donc ceux-là, de façon ironique, on a commencé à les appeler les petits Christ. C'est ça qu'a donné chrétien. C'est-à-dire les apprentis Christ, ceux qui font comme lui. Ouais, non. C'est ça qui est notre nom. Hein. Ceux qui font comme le Christ. Est-ce que c'est ce que nous vivons? Dieu en a besoin. Et dans ce texte, chapitre 7, il dit c'est de ça que Dieu a besoin. Ces gens-là, Dieu a besoin d'eux. Donc vous, là, vous et moi, Dieu a besoin de nous dans ce monde pour continuer à être des paroles vivantes de Christ. Vas-y, s'il te plaît. On va terminer avec le chapitre 8, les 6 premiers versets. C'est une heure de bilan aussi, hein, parce qu'il appelle l'Église à faire ce bilan. Il a dit à 7 reprises que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Et on a bien compris que l'Église, ce n'est pas les bâtiments, c'est ceux qui sont rachetés et mis ensemble pour Dieu. Vas-y, mon frère. On dit quand il a ouvert le septième sceau, là, il y a eu un silence d'une demi-heure. Une demi-heure, ça ne ressemblait à rien, mais dans la succession des événements, c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire, à un moment donné, dans tout ce fracas depuis le chapitre 1, chapitre 4, il y a eu un temps où tout le trône de Dieu, tout est resté. Parce que ce qui va être annoncé après, là, c'est trop grave. Parce que ce qui va venir après, c'est plus grave que ce qui a été déjà dit. Donc c'est un temps de réflexion. C'est un temps pour que le monde écoute et prenne conscience qu'on ne peut pas toujours faire sans Dieu. On a l'idée que parce qu'on est des êtres humains, autonomes, tout va bien. Il dit c'est faux. Hein? Des fois, il faut garder le silence pour voir que tout ne va pas bien. Selon Dieu en tout cas. Selon Dieu. Vas-y, s'il te plaît. Et on a encore cette séquence. Donc, le septième sceau dont il va parler maintenant, c'est celui-là. Et il va déboucher sur les sept tempêtes qui vont être sonnées. Et la septième tempête va déboucher sur les sept coups qui vont être manifestés. Vas-y. Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Sept trompettes leur furent données. Un autre ange vient et se plaça sur l'autel. Il portait un encensoir d'or. On lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or devant le trône, avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'élevait devant Dieu avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit de braise ardente, prit sur l'autel, et il a fait quoi? Il le lança sur la terre. C'est des jugements, en fait, qu'il a lancés. Il y eut alors le coup de tonnerre, des voix, des éclairs, et un tremblement de terre. Ça, c'est déjà des choses qu'on a vues. Hein. C'est des théophanies, c'est-à-dire c'est des apparitions de Dieu. Mais ces apparitions-là, quand ils apparaissent avec ça, c'est pas toujours joyeux. Hein. C'est quand il y a des dangers imminents que Dieu se manifeste comme ça. Les sept anges, on dit, c'est ceux qui sont dans la présence de Dieu. Hein. On a la révélation que de deux dont on connaît le nom. Parce que la Bible nous donne le nom, c'est Gabriel et Michaël. On dit souvent Michel. Hein. C'est les deux qui sont dans la présence de Dieu. Quand il se présente à Marie, Gabriel dit, je suis l'ange Gabriel qui est dans la présence de Dieu. Hein? On dit, il y en a sept. Bon, la culture juive en a trouvé le nom des cinq autres. Mais nous, on n'a pas. La Bible n'a pas donné le nom. Mais les juifs, dans leur livre, qu'on appelle le Talmud, qu'on appelle le récit d'Enoch, et puis aussi dans certains bibles qu'on appelle les apocryphes, que nous, on ne reconnaît pas, que l'Église catholique reconnaît, on a les noms, par exemple, d'un ange qui s'appelle Raphaël, hein, dans le livre de Tobie. Mais c'est des réalités célestes. Ça veut dire que Dieu a des envoyés, c'est des anges. Il les envoie pour des opérations spéciales. Mais ils ne sont pas supérieurs aux êtres humains, parce que les êtres humains, dans la hiérarchie de Dieu, viennent après Dieu, puisque les êtres humains sont créés à l'image de Dieu, pas les anges. Mais c'est les anges qui sont dévoués aux missions spéciales de Dieu, comme l'annonciation du Messie à Marie, comme la protection de Daniel par l'ange Michael. Donc, je ne sais pas si chaque chrétien a un ange gardien. Je ne sais pas. Je ne pense pas que la Bible dit ça, mais il y a beaucoup de théories dessus. En fait, on n'a pas besoin d'un gardien. Parce qu'il y a un seul qui nous protège. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est assis sur le trône. C'est notre avocat. Il veille sur nous. Hein? Jean chapitre 10, il dit, ceux que tu m'as donné, je les garderai de ma main. Personne. Personne ne peut les ravir de ma main. Personne. Voilà. Ça, c'est une certitude. Donc, si quelqu'un qui est supérieur à des anges me garde là, est-ce que j'ai besoin des anges encore? Pas besoin d'eux. Voilà. Car mon Rédempteur est vivant. Car celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Vas-y. Donc, on a cette cour céleste qui nous montre ça. Et puis ensuite, les trompettes vont être sonnées les unes après les autres. On sait que la trompette en Israël servait au fait d'Israël, mais aux prophètes aussi d'annoncer des révélations et des exhortations spéciales. Les prophètes n'ont pas cessé d'avertir Israël, dans la joie comme dans la difficulté. C'est des gens lucides. Quand tout le peuple croit que ça va bien, Dieu leur dit non, ça ne va pas, va leur parler. Et souvent le peuple n'écoute pas. Souvent le peuple prend à partie, il tue les prophètes. C'est ça Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tous les envoyés de Dieu. Et ils l'ont tué aussi. Ils ont fini par le tuer. Dis, tu ne reconnais pas les fois où tu es visité par ton nez, par l'Éternel. Tu ne reconnais pas les temps de ta visitation. Car comme une poule veut protéger ses poussins, c'est comme ça que je suis venu. Mais vous n'avez pas reconnu. Et c'est ce que Jean dit. Car il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Au contraire, ils l'ont rejeté. Bref, il va avoir tous ces éléments cosmiques qui vont se mettre en branle. Les trompettes vont retentir et nous verrons la fois d'après à quoi nous attendre pour chacune des trompettes qui sont liées au septième sceau. Et le septième sceau, c'est déjà le jugement. Mais nous sommes épargnés du jugement, car tous ceux qui sont en Christ échappent au jugement. Donc c'est un privilège, bien-aimé. On va terminer, vas-y. Encore? Encore? On va sauter tout ça? Il y a un dernier passage que je veux bien lire avec vous. C'est la dernière diapo. Et on a fini pour aujourd'hui. C'est le test de Matthieu 24. Est-ce que je l'ai mis là? Je pense. Voilà. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger, à boire, à se marier, à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge, qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est au moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. On a un privilège d'être des enfants de Dieu. Vivons ce que nous sommes. Vivons-le pleinement. Vivons-le pleinement. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous donner la force de le vivre. Les temps ne sont pas bons, les épreuves sont là, les difficultés sont là, mais nous avons le Saint-Esprit que Dieu nous a donné depuis la Pentecôte pour nous donner la force de vivre ce que nous sommes. Vivons ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, nous voulons te bénir et te louer. Merci pour ta grâce. Ah, Jésus, tu es merveilleux. Tu es venu pour nous. Tu nous as arrachés de la boue du péché.
Et tu as fait de nous tes enfants. Quelle grâce, quel privilège. En plus, dans la Trinité, le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous a été donné pour que nos vies soient amplifiées par lui, bonifiées par lui, conduites par lui. Tu dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplissez pas les œuvres de la chair. Aide-nous, Seigneur. Tu nous connais. Tu nous connais. Tu me connais. Tu connais mes combats. Tu sais là où je suis fidèle et je te bénis pour cela. Tu sais là aussi, où j'ai encore besoin de toi. Et je prie pareil pour mes bien-aimés là dans la salle. Nous voulons être ce sel, nous voulons être cette lumière. Mais nous avons besoin de toi. Merci pour cette grâce que tu nous as faite, de nous associer à ton peuple. Quel privilège. Merci parce que ta grâce est suffisante. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et ses compassions ne sont pas épuisés. Alléluia. C'est ça que le prophète dit, c'est de ça que je veux me souvenir. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions se renouvellent chaque matin. Que ton nom soit béni. Amen.